Bon week-end sur France Info, il est midi.
France Info, 10h, 14h, Jules de Kiss.
L'info avec Armand Perrouloga. Bonjour Armand.
Bonjour.
À la une, les dernières recommandations de la Haute Autorité de Santé.
Elle préconise d'élargir à 6 semaines le délai de vaccination entre 2 doses pour les vaccins Pfizer et Moderna. Objectif, accélérer la vaccination des plus vulnérables. Est-ce un masque révolutionnaire face au Covid ? Une société française a mis au point un masque imprégné d'un produit qui détruit la membrane du virus. Explication dans un instant.
Pourquoi est-ce passé de 6 semaines et non 3 ou 4 les 2 doses de vaccin ? Faut-il utiliser ou pas les masques artisanaux en tissu ? Réponse dans 10 minutes avec Pierre-Louis Druet, membre du conseil scientifique.
C'est donc une nouvelle préconisation en matière de vaccination. La Haute Autorité de Santé recommande d'allonger à 6 semaines le délai entre les 2 doses pour les vaccins Pfizer et Moderna, alors que les laboratoires préconisent un rappel au bout de 3 semaines. L'avis de la Haute Autorité a été publié ce matin. Il va dans le même sens que l'Organisation Mondiale de la Santé et l'Agence Nationale du Médicament. L'objectif est clair, accélérer la campagne de vaccination, Audrey Tison.
Protéger plus vite un plus grand nombre de personnes à risque. Derrière ces mots, on comprend qu'il s'agit en quelque sorte d'économiser des vaccins. Repousser la deuxième injection de 3 à 6 semaines, ça permet de donner une première dose à davantage de monde, au moins 700 000 personnes en plus dans le mois à venir. Quelles conséquences pour ceux qui attendent leur deuxième dose ? Le risque de perte d'efficacité paraît limité, estime la Haute Autorité. En effet, le vaccin Pfizer commence à protéger dès le 12e jour après la première injection, et c'est à partir du 14e jour pour le vaccin Moderna, d'après les études cliniques. Pour être efficace, cet espacement des doses doit être mis en œuvre rapidement, dit la Haute Autorité, et profiter d'abord aux plus de 75 ans.
Et il y a toujours des tensions sur les livraisons de vaccins après les retards annoncés par Pfizer. AstraZeneca annonce à son tour une baisse de ses livraisons, alors que le laboratoire attend le feu vert de l'Agence européenne du médicament pour son vaccin. AstraZeneca va devoir réduire ses livraisons d'environ 60% au premier trimestre en raison de problèmes de production dans une usine belge. Les règles anti-Covid se durcissent un peu partout pour faire face aux variants plus contagieux. L'Académie française de médecine recommande désormais de parler et de téléphoner, d'éviter de parler et de téléphoner dans les transports en commun, même masqués, lorsqu'on ne peut pas respecter la distanciation avec les autres. Alors qu'en France, la circulation du virus est toujours très forte, plus de 23 000 personnes contaminées pour la seule journée d'hier et au total 72 647 décès.
C'est une nouveauté en matière de masques pour se protéger contre le Covid.
Ces masques sont présentés comme révolutionnaires car ils sont imprégnés d'un traitement antiviral contre le coronavirus. Ils sont fabriqués par une entreprise française, Pronim, basée à Marseille, entreprise spécialisée dans les biotechnologies appliquées au textile. Pronim a mis au point un produit actif qui, dès qu'il est en contact avec le virus, détruit sa membrane. 1 million de ces masques vont arriver sur le marché la semaine prochaine. Olivier Martoc.
La société doit sa réputation à un principe actif développé contre les acariens qui protège les personnes allergiques, validé par l'Agence européenne de santé il y a 2 ans. Depuis l'apparition du virus, ses équipes travaillent sur le SARS-CoV-2. Fabio Pilate de Freitas, ingénieur chimiste, en charge de la recherche chez Pronim.
On va venir imprimer au cœur des fibres différents types de textiles avec une solution qui contient des microcapsules qui renferment un ingrédient actif, un produit 100% minéral, donc naturel. Ce traitement-là, lui, va empêcher le virus de rester à la surface du masque pour éviter de contaminer d'autres surfaces, casser la chaîne de propagation donc du virus.
La période des essais est terminée, la phase d'homologation par l'Agence de santé européenne est en cours, mais elle a d'ores et déjà donné l'autorisation de vente. Natalia Djej, docteur en biologie, fondatrice de Pronim.
Avec le traitement Viral Stop, on constate qu'en 15 minutes, le virus meurt à la surface du textile comparé à un tissu non traité.
Le traitement Viral Stop est vendu à des industriels du textile et donc à des fabricants de masques. Pronim a aussi décidé d'en commercialiser sous sa propre marque à 10 euros. Mais leur durée de vie est longue car on n'a pas besoin de les laver chaque soir. Marseille, Olivier Martoc, France Info.
Face à la pandémie, plusieurs pays européens renforcent leurs restrictions. La Belgique interdit à sa population de quitter le territoire pour des voyages non essentiels. Ce sera à partir de mercredi et jusqu'au 1er mars. Aux Pays-Bas, entrée en vigueur ce soir d'un couvre-feu nocturne à partir de 21h. Plus loin, à Hong Kong, confinement ce week-end d'un des quartiers les plus densément peuplés du territoire. La Colombie confine aussi sa population tout ce week-end. Aux États-Unis, Joe Biden estime que l'épidémie de Covid pourrait faire plus de 600 000 morts dans son pays. L'épidémie aggrave aussi la crise économique outre-Atlantique. Joe Biden a pris des mesures hier soir pour aider les personnes les plus durement frappées par cette crise. À Washington, Grégory Phillips.
Joe Biden signe deux nouveaux décrets. Le premier porte sur l'aide économique accordée aux familles frappées par cette double crise. L'autre sur la protection des agents du gouvernement. Nous sommes face à une urgence nationale, martèle le nouveau président. Alors que 30 millions d'Américains n'ont pas assez à manger, que partout dans les grandes villes, les banques alimentaires sont débordées et que les files d'attente devant les soupes populaires s'allongent jour après jour. Le virus se propage rapidement, dit Biden. Nous avons 400 000 morts. Nous en aurons bientôt plus de 600 000. Des familles ont faim.
Midi 10 sur France Info.
France Info, 10h, 14h. Jules de Kiss.
Pierre-Louis Druet, médecin généraliste, membre du Conseil scientifique et de la Haute Autorité de Santé, est avec nous dans un instant. Beaucoup de questions à lui poser sur l'espacement des doses entre les vaccins, sur les masques artisanaux en tissu. On y revient juste après le fil info avec vous, Armand Perrouloga.
En France, c'est la dernière recommandation de la Haute Autorité de Santé sur la vaccination. Elle préconise de décaler le rappel vaccinal à 6 semaines pour les vaccins Pfizer et Moderna, alors que les laboratoires recommandent 3 semaines entre les deux doses. L'objectif, c'est de pouvoir accélérer la vaccination des plus vulnérables alors que l'épidémie ne fléchit pas en France. De nombreux pays renforcent aussi leurs restrictions. La Belgique a décidé d'interdire tout voyage non essentiel hors de ses frontières. Les Pays-Bas instaurent un couvre-feu à partir de ce soir 21h. Et à Hong Kong, tout un quartier est confiné ce week-end. La prise de position aussi de l'OMS sur les masques en tissu, ils sont toujours aussi efficaces, assure l'Organisation mondiale de la santé. Et ce, alors que la France recommande de ne plus porter de masques artisanaux.
France Info.
Espacer deux doses de vaccin de 6 semaines et non de 3 ou 4, comme préconisé dans un premier temps. C'est possible et même souhaitable, d'après la Haute Autorité de Santé. Bonjour Pierre-Louis Druet.
Bonjour.
Vous êtes membre de cette Haute Autorité de Santé et du Conseil scientifique sur lequel le gouvernement peut s'appuyer pour prendre des décisions. Vous y portez la voix des médecins généralistes. D'abord, sur ce sujet de la vaccination, qu'est-ce qui permet d'espacer plus que prévu initialement ces deux doses de vaccin ?
Alors écoutez, je suis médecin généraliste en exercice et je vais vous donner à la fois un sentiment par rapport à la décision de la Haute Autorité de Santé et en tant que médecin généraliste en exercice.
Oui.
L'espacement de 21 à 42 jours était déjà quelque chose qui existait dans le dossier du fabricant et de Pfizer BioNTech, disant qu'effectivement il y avait un intervalle à respecter qui ne pouvait pas dépasser cette période. Pour avoir une efficacité, c'est-à-dire une montée en protection de la première injection et puis un renforcement par la deuxième, puisque c'est tout le principe de deux injections espacées. Le fait de l'écarter, ça a pour bénéfice, en fait, d'obtenir, face à une situation tendue en termes d'approvisionnement de vaccins, de vacciner un plus grand nombre de patients, et particulièrement, il faut se centrer sur les patients de plus de 75 ans à haut risque de faire des complications pour éviter qu'ils aient ces complications, qu'ils soient hospitalisés et qu'éventuellement un certain nombre d'entre eux soient hospitalisés en réanimation. Et on sait que le taux de mortalité augmente avec l'âge. Donc cette logique-là fait que on pourrait probablement plus que doubler le nombre de personnes vaccinées dans une période initiale.
Alors ça, c'est le but de la manœuvre, Pierre-Louis Druet, vacciner plus de monde plus rapidement. Mais qu'est-ce qui permet de le faire, d'espacer ces doses de 6 semaines d'un point de vue médical, alors qu'initialement, on préconisait 3 ou 4 pour maximiser l'effet de la vaccination? C'est que finalement, on peut se permettre de le faire sur 6 semaines, que ça ne détériore pas le niveau de protection tant que cela?
Non, en fait, effectivement, ça ne détériore pas le niveau de protection dans la mesure où on va bien sûr voir baisser un peu le taux de protection en pourcentage, mais il est suffisamment minime pour qu'il n'y ait pas de perte de chance pour ces patients et que la revaccination apporte le même bénéfice au terme. C'est-à-dire qu'on décale d'environ 3 semaines la revaccination en permettant pendant cette période de vacciner de manière initiale un certain nombre de personnes.
Le ministre de la Santé, Olivier Véran, a déjà annoncé que la France allait se passer les 2 doses de 6 semaines. C'était le 7 janvier. Il n'a donc pas vraiment attendu cet avis de la Haute Autorité de Santé.
Bah écoutez, posez-lui la question, moi j'ai pas la réponse.
Bon, autre sujet du jour, Pierre-Louis Druet, la pertinence ou non des masques artisanaux en tissu face à des variants du virus plus contagieux. L'Académie nationale de médecine n'approuve pas le gouvernement qui demande aux Français de les bannir car ils ne seraient pas assez efficaces. C'est un principe de précaution qui manque de preuves scientifiques d'après l'Académie. Est-ce que le Conseil scientifique, lui, a pris position sur cette question déjà ?
Non, le Conseil scientifique a déjà écrit sur le sujet très antérieurement et par rapport à ce que je ne comprends pas parce que je vois pas où est la polémique. On est aujourd'hui dans une situation où je pourrais m'interroger sur le niveau de preuve des affirmations de l'Académie de médecine en termes scientifiques. Moi, ce que je sais, c'est que le Haut Conseil de santé publique a donné un certain nombre d'éléments récents et qui permet de dire que parce qu'on n'est plus dans une période de pénurie de masques, l'usage des masques qui sont aux normes, qui sont commercialisés avec des normes, et en particulier, vous savez, sur les sachets, il y a une mention qui est UNS 1 ou 2. Donc il faut regarder cette mention, il faut utiliser ces masques le plus souvent possible et utiliser le masque chirurgical. Ce qu'il faut bien savoir et rappeler, c'est que le masque a un rôle de filtration pour protéger les autres. Donc la filtration des particules qu'on recherche, c'est essentiellement pour que une personne contaminante soit dans son action de contamination limitée par le port du masque. Et je rappelle les distances barrières qui sont en train d'augmenter à 2 mètres. Et la distanciation physique est importante aussi, l'aération des locaux. Quand vous êtes dehors avec un masque et que vous n'êtes pas en contact avec du public, on peut éventuellement imaginer que porter un masque en tissu que l'on a fabriqué soi-même soit un élément de protection, mais il n'est pas optimum, c'est tout.
Pierre-Louis Druet, il y a la Haute Autorité de Santé, le Conseil scientifique auquel vous appartenez, il y a l'Académie de médecine, une société savante indépendante, le Haut Conseil de la Santé publique qui lui conseille le ministère de la Santé. Toutes ces instances ont des rôles complémentaires, c'est bien qu'elles s'expriment toutes de la sorte parce que cela crée beaucoup de confusion chez les Français, on le voit bien aujourd'hui, et peut-être que vous le ressentez dans les cabinets médicaux quand vous acceptez et accueillez des patients.
Bah, écoutez, notre quotidien de médecin généraliste, c'est de remettre un peu de bon sens et de redonner des informations authentiques aux patients. Dire ce que l'on sait et dire ce que l'on ne sait pas. Pour moi, ce que dit l'Académie de médecine n'est pas quelque chose que je vais prendre en compte. Je suis désolé, mais le niveau de preuve de ce qui est dit là mérite d'être apporté.
Donc chaque médecin pioche entre les différents avis, se fait son opinion ?
Non, on ne pioche pas. Il y a des autorités indépendantes qui sont là. Le rôle de la Haute Autorité de Santé, c'est de dire ce qui est scientifiquement valide et prouvé et de demander ensuite son application potentielle. Et entre le possible et le faisable, il peut y avoir des différences.
Autre mesure...
Le Haut Conseil Santé Publique a d'autres fonctions. Donc il n'y a pas de mélange des genres.
Autre mesure proposée par l'Académie de médecine, alors vous allez me dire si celle-là trouve grâce à vos yeux, ne pas parler dans les transports en commun pour éviter les projections. Est-ce que cela a du sens ?
Bah écoutez...
On ne vous sent pas, pas convaincu.
Non, mais non, c'est pas du bon sens. Interdire aux gens de parler dans les transports en commun en portant un masque, je vois pas vraiment quel est le bénéfice. Il y a des choses beaucoup plus importantes que cette simple, entre guillemets, polémique qui pour moi n'en est pas une.
Revenons-en à la circulation du virus aujourd'hui en France. Le nombre de cas quotidiens est globalement stable depuis plusieurs semaines maintenant, entre 20 et 25 000. On est dans ce plateau élevé, mais le taux d'occupation dans les hôpitaux, lui, augmente. Est-ce que si cela continue comme ça, un reconfinement est inéluctable ?
Si ça continue comme ça, on va avoir une courbe qui va continuer de monter très progressivement et très lentement. Mais on a tous l'expérience du premier choc, c'est qu'à un moment donné, la courbe peut partir dans son exponentielle et créer, et en particulier avec ce que l'on craint de l'existence du variant UK et des autres variants, à venir, ce que l'on craint, c'est qu'à un moment donné, on se retrouve face à une montée assez brutale qui peut conduire à des mesures complémentaires. Je rappelle que le Conseil scientifique a, dans son dernier avis, ciblé quatre situations potentielles, l'ultime et celle que personne ne souhaite étant le confinement et le reconfinement.
Et l'apparition de clusters ces derniers jours qui commencent à prendre de l'importance à Dieppe, près de Chamonix aussi, cela a de quoi vous inquiéter ?
Pas plus que ça, dans la mesure où l'apparition de clusters, quand ils sont identifiés, permet de mettre tout de suite en œuvre les principes de, après avoir testé, de tracer et d'isoler. Bon, je vous rappelle que c'est encore la mesure la plus importante et je pense qu'il vaut mieux parler de ça que de parler des masques de l'Académie de médecine.
On a bien compris. C'est la dernière question très, très rapidement sur le reconfinement, sur les courbes. D'après ce que vous voyez des niveaux actuels de circulation du virus et dans les taux d'occupation dans les hôpitaux, et à quel rythme et quel est le laps de temps qui nous sépare d'un potentiel reconfinement, ce fameux stade 4 que vous avez évoqué ?
Le Conseil scientifique n'a jamais eu le pouvoir de lire dans le marc de café. Il y a des modèles mathématiques qui nous laissent craindre qu'effectivement, dans la période de mars, il se passe des choses inquiétantes, mais on ne peut pas en dire plus.
Bon, fions-nous plutôt à ces modèles mathématiques qu'au marc de café. On a bien compris. Merci beaucoup, Pierre-Louis Druet, d'être venu sur France Info rappeler la position de la Haute Autorité de Santé et du Conseil scientifique auquel vous appartenez. Il est midi 20.
Au programme aussi, l'opération sport féminin toujours. Ce sera en compagnie de l'escrimeuse Cécilia Berder dans quelques minutes. Et dans 20 minutes, à la carte avec Thierry Marx, nous verrons ensemble comment cette période de crise doit inciter au combat. Vous écoutez France Info, il est 14h.
France Info, 14h, 17h, Bernard Thomasson.
L'info avec vous, Edouard Marguier. Mais et d'abord le point sur cette journée de manifestation en Russie. Les participants, des milliers à Moscou, demandent la libération d'Alexei Navalny. Ils dénoncent un emprisonnement politique de cet opposant numéro un à Vladimir Poutine. Les autorités n'autorisent pas ces rassemblements et multiplient les arrestations. Il y en a plus de 350 dans tout le pays. L'épouse d'Alexei Navalny dit d'ailleurs à l'instant en faire partie. Cette préconisation à présent, qui est peut-être le début d'un tournant dans la vaccination contre le Covid en France, la Haute Autorité de Santé recommande de décaler la deuxième dose à 6 semaines, 42 jours entre deux injections pour accélérer la campagne et prévenir d'une flambée de l'épidémie à cause notamment de la propagation de ces variants du coronavirus réputés plus contagieux. À ce jour, le ministère de la Santé préconise 4 semaines entre deux doses de vaccin, soit 28 jours. Cette annonce de la Haute Autorité de Santé intervient également en pleine polémique sur le nombre de doses contenues dans chaque flacon du vaccin développé par Pfizer en partenariat avec l'allemand BioNTech. Le laboratoire américain considère désormais que chaque flacon contient 6 doses contre 5 auparavant. En conséquence, l'entreprise va livrer moins de flacons, mais autant de doses, vous l'aurez compris. Il n'y a aucun problème avec cela, explique la ministre déléguée à l'industrie, Agnès Pannier-Runacher.
Pfizer compte en doses, c'est-à-dire que son contrat est établi sur un nombre de doses. Donc jusque-là, c'est très classique, il n'y a rien d'exceptionnel. L'enjeu aujourd'hui, c'est de se dire que Pfizer, du coup, a une meilleure capacité de production, qu'il livre le nombre de doses qui est dans le contrat, c'est parfaitement logique. Mais nous, ce que nous disons, c'est qu'au fond, il peut produire un peu plus. Et donc, s'il peut produire un peu plus, autant qu'une partie de cette production supplémentaire aille plus vite
donc là, c'est
dans
en discussion.
Le giron européen. Mais je veux aussi rétablir un point. En France, nous n'avons pas de retard de livraison de doses de Pfizer. Il y a eu un ralentissement la semaine dernière, mais qui est rattrapé. Et vous le savez, plus de 2 millions de doses ont été livrées depuis le début de la campagne. Et ce sont essentiellement des doses de Pfizer, puisque Moderna a un nombre de doses livrées un peu moins importante.
Agnès Pannier-Runacher, la ministre de l'Industrie, est chez nos confrères de France Inter ce matin. Et puisqu'on est dans les vaccins, AstraZeneca annonce une baisse de livraison. Le laboratoire anglo-suédois le dit avant même de recevoir le feu vert des autorités sanitaires européennes pour une mise sur le marché. Il explique subir une baisse de rendement sur un site de fabrication. En attendant la vaccination pour tous, les gestes barrières restent le meilleur moyen pour se protéger contre le virus. Quant aux masques, ils sont à nouveau sujet de désaccord entre l'exécutif et une partie du monde médical. Le ministre de la Santé, Olivier Véran, veut interdire les masques artisanaux. Pour Yves Buisson, responsable de l'unité Covid à l'Académie de médecine, cette injonction ne se justifie pas sur le plan scientifique.
Ça vient du Haut Conseil de la Santé publique, ça a d'abord été une proposition du Haut Conseil, mais qui part sur des bases théoriques qui sont justes, hein, il ne faut pas tout jeter. Dire que les masques chirurgicaux sont plus filtrants que les masques artisanaux, c'est vrai, mais de là à imposer leur utilisation et à rejeter les masques artisanaux, il n'y a pas de base scientifique pour montrer que ça sera mieux de porter que des masques chirurgicaux actuellement pour empêcher la transmission des variants. Et deuxièmement, passer de la distanciation de 1 mètre à 2 mètres, c'est une mesure qui, là aussi, bien sûr, on peut ajouter 1 mètre chaque fois qu'il y aura un nouveau variant, mais enfin, c'est de la pure théorie. En pratique, on voit bien que dans les transports en commun, dans les magasins, on ne peut pas rester à plus d'un mètre des autres personnes.
Yves Buisson, la question du moment, un reconfinement, vous semble-t-il, évitable ?
Je pense que c'est encore évitable. C'est tout ce que je peux dire. C'est encore évitable avec de la chance et beaucoup d'efforts de chacun. Peut-être qu'on peut éviter un nouveau confinement. C'est la responsabilité de chacun. Bien sûr, on attend tout du gouvernement, des mesures générales, mais la transmission, elle se fait de personne à personne et chaque Français est concerné.
Yves Buisson, responsable de l'unité Covid-19 à l'Académie de médecine, il répondait à Ersin Lebovitch. Autre sujet de discussion, voire d'inquiétude, au Royaume-Uni, Boris Johnson a annoncé que la nouvelle souche du virus découverte en Angleterre, le fameux variant anglais, est potentiellement plus mortel, on le savait, plus contagieux, mais d'après des informations du Premier ministre, elle tuerait 30% de plus de personnes infectées. À Londres, Maxence Peignet.
Les unes de la presse britannique ce week-end balayent tout espoir d'un retour à la normale prochain pour le Royaume-Uni. La souche mutante est plus mortelle, titre le Daily Telegraph, qui se demande si le confinement ne va pas durer plus longtemps que prévu. La situation des hôpitaux est précaire, en une du Financial Times, et le virus est encore là pour longtemps, selon le Times. Il faut dire qu'hier soir, le gouvernement ne s'est pas montré rassurant, même s'il est resté prudent. Les preuves ne sont pas encore solides et il faudra plus d'études, a insisté Patrick Vallance, son conseiller scientifique en chef. Mais selon lui, le risque de mourir du variant britannique se situe entre 13 et 14 pour 1000 pour une personne âgée de 60 ans, soit une mortalité de 1,3%. Le risque lié à la souche initiale du virus est de 10 pour 1000, soit une mortalité de 1%. Mais Patrick Vallance a également tenté de rassurer en indiquant n'avoir aucune preuve que le vaccin soit moins efficace contre cette mutation, qui est désormais majoritaire en Grande-Bretagne. Londres, Maxence Peignet, France Info.